que tu nous as partagé. Il y a une chose qui m'a particulièrement marqué dans ce que tu as dit, et j'aimerais rebondir dessus. Tu as dit à un moment que lorsque nos sentiments sont constants, Dieu nous assure sa paix. C'était à peu près ça, ce que tu nous as partagé. Et je me permets de rebondir sur ce que tu as dit, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous qu'est-ce qui se passe quand justement nos sentiments fluctuent. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans des situations de tourment où on a beaucoup de mal à se tourner vers Dieu, on a beaucoup de mal à ressentir la joie et la paix que Dieu donne. Comment est-ce que nous pouvons gérer tout ça? Parce que ce sont des éléments qui sont présents dans notre vie de tous les jours. Peut-être pas vous, mais moi si. Il y a des fois, avec le Seigneur, les choses se passent bien, le soleil brille comme aujourd'hui, et on est bien disposé. Mais forcément, dans la vie, le jour arrive où la tempête est là. Nous sommes plongés dans des situations qui parfois ne sont même pas de notre propre ressort, des choses qui nous tombent dessus sans prévenir, sans qu'on ait rien fait pour mériter cela, des situations d'injustice. Et c'est aujourd'hui ce que nous allons voir ensemble. Nous allons lire ensemble le psaume 109. Donc je vous invite à prendre vos Bibles pour prendre ce psaume 109. C'est un psaume qu'on appelle dans nos milieux théologiques un psaume imprécatoire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, un mot un peu compliqué que vous n'êtes pas du tout obligé de retenir. Un psaume imprécatoire, qu'est-ce que c'est? Un psaume imprécatoire, c'est un psaume où l'auteur, celui qui parle au travers du psaume, va demander à Dieu de punir et de détruire, de faire du mal, de corriger, afin d'établir une justice qu'on pourrait qualifier de très humaine. Et parfois, lorsque nous sommes confrontés à ces textes, je ne sais pas si dans votre lecture de la parole, vous êtes déjà tombé sur l'un de ces psaumes, mais parfois on se sent un peu mal à l'aise. On se sent mal à l'aise quand on lit ce que le Seigneur a permis qu'il soit écrit dans sa parole. Et c'est pour cela que j'aimerais que nous nous penchions dessus ce matin, pour que nous puissions voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ces psaumes. Les psaumes, de façon générale, je vous avais dit la dernière fois, le mois dernier, quand j'étais venu, que les psaumes étaient un peu comme la description de l'anatomie de l'âme humaine. On voit dans le livre des psaumes toutes sortes de sentiments, on pourrait dire presque toute la palette des émotions que l'être humain peut ressentir. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle ce livre des psaumes, il parle beaucoup, il est très présent dans nos lectures quotidiennes de la parole, et il fait régulièrement partie des livres qui sont les plus lus ou les plus appréciés. Parce qu'il est très facile pour nous de nous identifier à ce que l'auteur est en train de décrire. Ça nous prend aux tripes, on rejoint l'auteur dans ce qu'il vit, dans sa situation. Et ça nous permet aussi de pouvoir voir comment est-ce que ces personnes ont vécu ces différentes émotions avec Dieu. C'est là pour nous une grande source d'application et d'enseignement, pour savoir comment est-ce que nous aussi, nous pouvons gérer toutes ces émotions qui fluctuent et qui parfois peuvent nous plonger dans des situations difficiles. Les psaumes imprécatoires, un dernier mot, il y en a 12, j'en ai compté en tout cas 12, dans le livre des psaumes. Et quand on voit qu'il y a un peu moins de 150 psaumes, c'est quand même intéressant de se dire que c'est à peu près 10% des psaumes qui sont des psaumes imprécatoires, des psaumes un peu difficiles, où il y a des appels à la punition, à la mort, à ce que l'autre, celui qui nous fait du mal, eh bien soit détruit par Dieu. Et je trouve que c'est intéressant. Parce que même si nous, on pourrait volontiers éviter ces textes, lorsqu'on voit que c'est un peu difficile à lire, et quand on voit que ça ne ressemble pas vraiment au Dieu que l'on connaît, à Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, qui nous demande d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, eh bien parfois il y a un décalage. Et plutôt que d'éviter ces textes, j'aimerais vous proposer qu'on se penche sur l'un d'entre eux. Le psaume 109 que j'ai choisi, qui est peut-être, je dis peut-être, le plus difficile des psaumes imprécatoires, le psaume le plus dur à lire. Et vous allez voir, en tout cas dans notre première partie de lecture, nous allons commencer par lire les versets 1 à 20, il y a des choses qui remuent. Je commence la lecture, psaume 109, les versets 1 à 20. Au chef des chantres de David, psaume. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse.
Il me parle avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient. Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'ils soient toujours présents devant l'Éternel et qu'ils retranchent de la terre leur mémoire parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. Parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle retombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit, de la part de l'Éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. » Déjà jusqu'ici, la parole de Dieu, je vous l'avais dit, un psaume difficile à lire. On ne comprendrait presque pas pourquoi est-ce que le Seigneur permet que de tels mots soient écrits dans sa parole. Qu'est-ce que nous voyons au travers déjà de ces 20 premiers versets ? Je trouve intéressant déjà de souligner que dès le début, le psalmiste, qui est ici identifié comme étant David, s'adresse au Seigneur. Il s'adresse au Seigneur en l'appelant le Dieu de ma louange et en lui demandant « ne te tais point ». Vous voyez déjà ici, dans la bouche de David, un appel à l'aide. Un appel à l'aide. David est dans une situation très compliquée et il se tourne résolument vers son Dieu pour le supplier d'agir et de faire quelque chose. Et c'est déjà là pour nous aussi un premier enseignement. Lorsque dans notre vie quotidienne, nous avons des adversaires, il est question dans ce texte d'adversaires, des personnes qui nous veulent du mal alors que nous sommes innocents, alors que nous n'avons rien fait, comment est-ce que nous pouvons gérer ? Et nous voyons là dans David cet exemple de l'homme qui se tourne premièrement vers Dieu. Ce n'est pas celui qui va chercher à se faire justice lui-même, mais celui qui va en appeler à la justice de Dieu. Déjà un premier élément très important pour gérer la persécution, gérer les situations de conflit, lorsque ça boue à l'intérieur de nous, lorsque nous avons des pensées, si ce n'est pas des mots, qui sont très durs à l'encontre de quelqu'un qui nous a fait du mal. Prenons déjà ce premier réflexe de nous tourner vers Dieu. Parce que je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais en tout cas pour ma part, lorsque je me trouve dans ce genre de situation, mon premier réflexe ne sera pas forcément de me tourner vers Dieu. Ce sera beaucoup plus de me tourner vers moi, la pauvre petite personne que je suis, la pauvre petite victime. Et c'est aussi ce que notre société ambiante nous pousse à faire, à nous victimiser, à nous dire « c'est pas juste ». C'est pas normal, il faut hurler le plus fort possible et il faut que l'autre soit puni, qu'il soit détruit. C'est un peu le discours que l'on retrouve et c'est peut-être aussi une première réaction naturelle de notre part. Nous vivons dans une société, elle est la nôtre, et forcément elle nous influence. On ne peut pas dire que la société ne nous influence pas. Et c'est là un premier appel à la vigilance que le Seigneur nous adresse. Lorsque nous sommes dans ces situations où les sentiments nous prennent aux tripes, lorsque nous souffrons alors que ce n'est pas juste, prenons ce premier réflexe de nous tourner vers Dieu et non pas vers nous-mêmes. Tournons-nous en premier vers Dieu. Le Dieu de ma louange ne te tais point. Interviens, Seigneur. C'est déjà là dans le premier verset ce que le psalmiste dit à son maître. Ce n'est pas juste, en bon évangélique que nous sommes, de dire « Ah Seigneur, je veux bénir mes ennemis, moi ça va, les autres me font du mal, mais je l'accepte et je veux garder des bons sentiments. » Vous comprenez bien que parfois on n'arrive pas à faire cela. On aimerait pouvoir dire que ça ne nous touche pas. Mais lorsque quelqu'un nous fait du mal, et surtout lorsque c'est quelqu'un d'important, quand c'est quelqu'un de notre famille ou un collègue de travail qu'on voit tous les jours, ou quelqu'un de l'église, on ne peut pas dire que ça ne nous touche pas. Et il est parfois nécessaire pour nous de passer par cette situation, de passer par cette colère. Je vais appeler ça la colère, mais pas la colère telle qu'elle est décrite mauvaise dans la Bible, mais j'aimerais vous parler d'une colère beaucoup plus saine. Une colère saine qui nous est présentée par David ici. Il souffre parce qu'on lui a fait du mal, et nous aussi, nous pouvons souffrir. Et il est bien inutile, il est bien vain d'essayer de faire comme si de rien n'était. Ça peut marcher pour un temps, on peut mettre de côté, occulter totalement, se concentrer sur autre chose, détourner notre regard, mais parfois, lorsque les blessures qu'on a subies sont trop importantes, eh bien cela va ressurgir. Si nous n'avons pas traité le problème, si nous ne nous sommes pas penchés sur le problème pour le gérer selon ce que le Seigneur nous demande, selon ce qu'il nous propose, eh bien cela va pourrir dans notre cœur. On va le mettre dans une petite case, dans notre esprit, au fond de notre cœur, et on va le laisser macérer. Et tôt ou tard, ça va exploser. Tôt ou tard, notre souffrance va ressurgir. Et le grand problème, c'est que la plupart du temps, lorsque notre souffrance explose, eh bien celui qui en fera les frais, ce n'est pas forcément celui qui nous a fait du mal en premier. Et vous voyez là qu'on peut, à notre tour, devenir quelqu'un qui va faire souffrir quelqu'un d'autre, alors qu'il ne l'a pas mérité. Et on a un espèce de cercle infernal, un cercle non vertueux, qui va produire de la souffrance. Et le Seigneur ne veut pas cela pour nous, il ne veut pas cela pour nos proches, et il ne veut pas cela pour son Église non plus. Mais que faire du coup ? Que faire ? Nous voyons ici, avec David, que pour sa part, en premier il s'adresse à Dieu, et il nous dit aussi, au verset 4, « Je recours à la prière ». Un deuxième élément très important, de pouvoir verbaliser les choses à Dieu. La prière, c'est l'endroit où nous pouvons nous adresser à Dieu avec nos propres mots. C'est déjà là aussi une clé pour nous aider à gérer ces situations de souffrance. On dit, dans notre société aussi civile, que verbaliser la souffrance, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Et je trouve que c'est très sensé, comme parole, déjà pouvoir dire les choses, plutôt que de les garder dans son cœur. Et c'est aussi ce que fait David ici. Il recourt à la prière, il a cette relation avec son Dieu où il lui parle, il lui dit les choses telles qu'il les ressent. Et vous êtes peut-être, j'espère que vous serez d'accord avec moi, de dire que parfois, lorsque nous sommes dans une situation de conflit, lorsque nous souffrons et que nous disons les choses, eh bien parfois nous pouvons exagérer. Nous pouvons parfois donner notre point de vue, qui n'est pas toujours le point de vue le plus juste. Et je trouve que c'est là ce que nous retrouvons dans tous ces 20 premiers versets. Lorsque David expose sa souffrance, vous avez peut-être remarqué, lorsque David nous donne ce psaume, qu'en fait il est en train de s'adresser à Dieu. Il est en train de lui parler directement à lui. C'est justement sa prière dont il est question au verset 4. Et sa prière à Dieu, on ne va pas relire les versets, mais vous pourrez les relire chez vous, vous voyez qu'il y a des choses qui sont dures. Que ses enfants deviennent des orphelins, que sa femme devienne veuve, qu'est-ce qu'il est en train de demander ? Que mon ennemi meure, que mon ennemi meure. Il est en train de demander ça à Dieu. Et pire encore, il va encore plus loin. Il nous dit que ses enfants deviennent vagabonds et qu'ils mendient. C'est quand même très dur d'entendre ça, de lire ça dans la parole de Dieu. Mais c'est ce qui est dans son cœur à David. Même si nous savons et j'y reviendrai plutôt vers la fin, que ce n'est pas une bonne chose de souhaiter ça à ses ennemis. Le Seigneur a dit dans sa parole que nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Lorsque quelqu'un nous frappe la joue droite, nous devons tendre la gauche. Nous savons ces choses. Mais dans notre cœur, ça ne se passe pas comme ça. Dans notre cœur, nous avons ce ressentiment. Et David nous donne ici l'exemple de ne pas chercher à dissimuler ce qui est dans notre cœur à Dieu. Vous savez, lorsque nous nous retrouvons le dimanche, eh bien, nous n'avons pas forcément envie de toujours dire les choses qui ne vont pas. On peut parfois, lorsque nous parlons les uns avec les autres, eh bien, dire les choses positives et parfois garder pour nous certaines choses importantes. Et c'est une réaction normale et naturelle. Mais malgré tout, ce que j'aimerais dire, c'est qu'avec Dieu, ne prenons pas cette habitude. Ne prenons pas cette habitude avec Dieu de dissimuler des choses lourdes qui pèsent sur notre cœur. Justement, le Seigneur est là pour nous entendre. Lui est capable de supporter ce fardeau que nous pouvons lui confier. Et ultimement, mes amis, lui sait déjà ce qu'il y a dans notre cœur. Le Seigneur sait déjà que ses pensées sont en nous. À quoi bon essayer de lui cacher ? Cela est totalement vain. Il sait. Autant aller vers lui, autant lui dire des choses qu'il sait déjà. C'est la première marche, le premier pas vers la guérison. Pouvoir verbaliser à Dieu même les choses les plus horribles qui peuvent être dans notre cœur. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter à ça, évidemment. Nous voyons avec David que il donne tout ce qu'il y a dans son cœur à Dieu. Il montre au Seigneur toute sa souffrance. Même si cela le pousse à employer des mots qui sont très durs, à attirer la malédiction sur ses ennemis, malgré tout, David ne veut pas s'arrêter là. Et on va reprendre notre lecture à partir du verset 21 jusqu'à la fin du psaume 109. « Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom. Car ta bonté est grande. Délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel, mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté. Et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. » Nous terminons ici la lecture de la parole de Dieu avec cette deuxième partie. On voit un virage qui se fait pour David. Après tout ce qu'il vient de dire, de très dur, maintenant il va se tourner vers Dieu. Dans un premier temps, il a vidé son sac, même s'il y avait un peu un assaisonnement de vitriol dans ses mots, il a vidé son sac devant Dieu. Et en deuxième, il ne s'arrête pas simplement à ça, mais il va maintenant se tourner vers Dieu et il va lui demander d'agir. Il ne va plus parler tant de lui que parler de Dieu. Le texte se centre beaucoup plus sur la personne de Dieu dans cette deuxième partie. Et devant Dieu, comment est-ce que David se place dans ces versets ? Vous avez peut-être remarqué que David prend ici une attitude que je pourrais qualifier d'humilité. Il ne va pas exiger de la part de Dieu qu'il agisse, il ne va pas dire à Dieu ce qu'il a à faire, quand bien même il va lui donner quelques pistes. Hein. Malgré tout, il s'en remet au jugement de l'Éternel. Pour lui, il se décrit lui-même comme étant, au verset 21 et 22, « Je suis malheureux et indigent, Mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. » David est en train de dire à Dieu qu'il est en train lui-même de se perdre. Il est en train lui-même de mourir à petit feu parce que toute cette souffrance qu'il a dans le cœur est en train de le bouffer. C'est ça ce qu'il dit avec, je le dis avec mes propres mots. Mais voilà comment il se place devant Dieu. Il demande à Dieu, « Viens à mon aide !» Et vous remarquez déjà, si nous, lorsque nous sommes dans des situations telles que David, lorsque nous pouvons en appeler à ce que Dieu agisse, eh bien, notre première réaction pourrait être de dire, « Seigneur, va corriger chez eux ce qu'il ne va pas, ce qui ne va pas. » Et en soi, parfois, c'est tout à fait légitime. Lorsque nous avons souffert de façon injuste comme David ici, il serait presque normal de demander à Dieu de changer les autres. Mais David ici commence par demander à Dieu, à ce que Dieu vienne le changer lui. Et c'est là encore une clé très très importante pour nous. Parce que lorsque nous sommes dans ces situations de souffrance, lorsque quelqu'un nous a fait du mal injustement, eh bien le Seigneur veut que nous apprenions que lui a aussi un travail à faire dans notre cœur à nous. Nous ne pouvons pas simplement nous positionner en tant que victime, quand bien même c'est vrai, et dire « moi j'ai rien fait, le problème ce n'est pas moi, le problème c'est les autres ». Ça c'est ce que la société nous dicte. Hein. Mais le Seigneur ici met un éclairage. Nous avons besoin que Dieu agisse dans notre cœur à nous aussi. Et c'est là pour nous salutaire. Parce que ce constat que fait David, c'est le constat de toute personne qui souffre. Quand on est dans la souffrance, on va vers la destruction, l'autodestruction. Et nous pouvons penser à tort que si l'autre est puni, si l'autre est châtié selon sa faute, eh bien nous, ça va nous aider. C'est aussi ce que la société nous dit. Et volontiers, on entendra dans le monde séculier que nous avons besoin que justice soit faite pour que la réparation puisse commencer. On entend ce genre de choses. Eh bien, je me permets de vous dire qu'avec l'autorité de la parole de Dieu, cette parole est un mensonge. C'est un mensonge. Pour que nous puissions commencer à guérir dans notre cœur par rapport à nos blessures, nous n'avons pas nécessairement besoin, dans un premier temps, que justice soit faite. Justice humainement, j'entends. Mais nous avons en premier besoin que l'Éternel vienne guérir notre cœur pour commencer à guérir. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut surtout pas faire une justice humaine. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais j'aimerais remettre les choses à leur place. La justice humaine, la Bible en parle également beaucoup, surtout l'Ancien Testament. Nous avons besoin d'une justice humaine. Lorsque nous voyons le mal qui règne, qui sévit dans notre société, eh bien aussi, Dieu nous appelle à pouvoir exercer une justice. Mais ce n'est pas la première des choses à faire. Et ce n'est pas ce qui nous permettra, nous, d'aller mieux. Et ça, c'est très important à saisir. Ce qui nous va nous permettre d'aller mieux, c'est que l'Éternel vienne guérir notre cœur. Et vous savez, ce qui est merveilleux avec cette parole, c'est que peu importe ce que fait l'autre, peu importe ce que fait celui qui m'a fait du mal, moi, je peux guérir. Parce que si jamais, pour commencer à guérir ou pour guérir complètement, on a besoin que l'autre, par exemple, vienne nous demander pardon, eh bien, il y a des cas où on sera bien embêté. Si celui qui nous a fait du mal est décédé, qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne va pas nous demander pardon. S'il n'y a aucune possibilité de réparation avec l'autre, comment est-ce qu'on va faire pour guérir? Eh bien, on ne pourra pas, tout simplement. Alors qu'avec ce que le Seigneur propose dans sa parole, eh bien, nous pouvons toujours guérir. Nous pouvons toujours être restaurés dans notre âme. Parce que le Seigneur, lui, est tout-puissant, et parce que lui, il ne meurt jamais. Il est toujours là. Et il est toujours une main tendue, une main tendue vers l'humanité pour venir guérir son cœur. C'est là un enseignement très important par rapport à la souffrance. Dieu va m'aider à aller mieux et à guérir. La justice humaine, elle vient ensuite. Elle vient dans un deuxième temps. Donc, comme je le disais, David appelle le Seigneur à agir en sa faveur parce que lui-même est en train de se détruire à cause de sa souffrance. Et vous avez peut-être aussi remarqué que dans ce que David demande à l'Éternel, lorsque l'Éternel, si l'Éternel agit pour David, quel en sera le plus grand profit ? Le plus grand profit sera celui de l'Éternel. Et je trouve aussi que ça, c'est une clé très importante. David ne demande pas simplement à l'Éternel de venir guérir son cœur, d'améliorer la situation et de faire justice uniquement pour lui faire du bien à lui. Mais aussi parce que, au travers de ces choses, de ces événements, le Seigneur aussi en sortira glorifié. Le monde verra que Dieu agit lorsque Dieu agit dans le cœur de quelqu'un qui souffre. Et donc, David est en train de présenter que Dieu a tout intérêt à agir en sa faveur, à venir guérir son cœur. Donc vous voyez que dans l'esprit de David, il ne pense pas seulement à lui. Et ça aussi, c'est une clé très importante pour nous. Lorsque dans notre prière, dans notre situation de souffrance, nous nous adressons à Dieu et nous lui demandons d'agir, gardons en tête que Dieu peut agir aussi pour sa gloire. Et nous pouvons être, même dans ces situations, un outil dans la main de Dieu pour que Dieu fasse resplendir sa gloire sur la terre. Et lorsque nous avons ceci à l'esprit et que nous demandons à Dieu d'agir, croyez-moi que le Seigneur va agir. Parce que le Seigneur, non seulement il veut notre bien, le Seigneur veut notre bien-être, mais il veut aussi que sa gloire soit connue du monde entier. Et en adoptant cette attitude, plutôt que d'essayer de faire rentrer Dieu dans notre vie, nous essayons bien plus de rentrer notre vie dans le plan de Dieu. Et c'est aussi une clé très importante. Le Seigneur, l'Éternel, est plus grand que nous. Il compte plus que nous. Et nous ne voulons pas juste nous rabaisser pour nous rabaisser. Mais c'est quand même important de réaliser que le Seigneur est celui qui doit être à la première place. Pas nous. C'est pas moi, Geoffrey, qui suis le plus important. Le plus important, c'est le Seigneur. Je ne veux pas me dénigrer, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Mais nous ne sommes pas notre propre Dieu. Et ça aussi, c'est très important. Parce que c'est ce que notre société vit. Chacun est son propre Dieu. On fait ses choix en fonction de nous. En fonction de ce qui nous plaît, de ce qui nous fera du bien. Et le Seigneur nous appelle à autre chose. Parce que cette voie mène à la ruine. Si nous voulons nous mettre au centre de notre vie, travailler pour nous-mêmes, eh bien, nous n'atteindrons jamais le bonheur. Et ça, la parole de Dieu le dit clairement. Si nous voulons goûter au bonheur, si nous voulons connaître la joie, nous devons réaliser que Dieu doit être à la première place. Nous devons toujours garder les yeux levés sur lui en premier et pas sur nous-mêmes. Malgré tout, David appelle à une justice humaine. Il faut que des choses soient faites, très concrètement. Et quand bien même nous ne savons pas dans ce psaume de qui David est en train de parler, si nous lisons un petit peu l'Ancien Testament, le livre des Rois et les Chroniques, nous savons que David a eu de nombreux ennemis. On pourrait citer peut-être Saül comme étant une potentielle personne dont David est en train de parler dans ce psaume, mais je trouve malgré tout beau que le Seigneur ne donne pas ce détail. Nous ne savons pas de qui David est en train de parler. Et je trouve que ça nous aide, nous aussi, à pouvoir nous approprier ce texte. Parce que même si nous ne connaissons pas forcément les mêmes situations de souffrance que David, David a quand même exposé sa vie, parce que Dieu l'avait appelé à être roi en Israël, il a dû en payer le prix, Saül a voulu le tuer, David a dû fuir, mener une vie de vagabond, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Et certes, nous n'avons pas à vivre de telles souffrances, mais malgré tout, nous avons aussi notre propre lot. Et l'objectif n'est pas de le minimiser, mais simplement de voir dans la personne de David cet exemple. Pour cette gestion de la souffrance, il a eu à cœur en premier de s'adresser à Dieu. Il a compris que ça ne servait à rien de se cacher, de cacher ce qu'il y avait dans son cœur. Il a vidé son sac avec l'assaisonnement de vitriol. Devant Dieu, il a tout donné, parce que de toute façon, il ne peut rien lui cacher. Il a supplié Dieu d'agir, non seulement pour cette situation, mais aussi qu'il agisse pour son cœur, parce qu'il est en train de se détruire, et qu'il a réalisé ce besoin de l'action de Dieu dans son cœur. David avait la passion de la justice selon Dieu. C'est ce que j'aimerais dire pour ma conclusion par rapport à ce texte, ce psaume imprécatoire. David avait cette passion de la justice. Il n'a pas souhaité juste mettre de côté les problèmes et dire « tout va bien, je vais bien, je vais bien ». Mais il a appelé Dieu à agir. Et le Seigneur aussi nous demande d'agir. Lorsque nous voyons l'injustice autour de nous, nous avons aussi notre rôle à jouer avec ce que nous sommes. Hein. Dieu ne nous demande pas de changer ce monde. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas faire en sorte que ce monde soit parfait. Ce n'est pas l'objectif. Mais malgré tout, nous avons ce rôle. Parce que c'est notamment en aidant à appliquer la justice selon Dieu, que le Seigneur sera connu, que la gloire du Seigneur resplendira et que des personnes vont s'approcher du Seigneur. Nous vivons dans un monde d'injustice, je pense qu'on sera tous d'accord de le dire. Autour de nous, c'est l'injustice qui règne. Et les différentes sociétés, toutes les nations du monde, essayent de mettre en place des solutions. Il y a des lois qui parfois sont bonnes, parfois sont mauvaises. On essaye de faire en sorte, on essaye de combattre en fait le mal. Et nous, nous avons quelque chose de plus à apporter. Parce que nous savons que le mal sera vaincu un jour. Nous savons même que le mal a déjà été vaincu à la croix. Nous savons déjà que la justice a été établie. Une justice que tout être humain cherche. Tout être humain aspire à la justice, à ce que le mal soit détruit. Mais, humainement, c'est impossible. Aucune société ne pourra jamais éradiquer le mal. Ce n'est pas possible. Parce que le seul qui peut vaincre le mal, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus répond à cette aspiration de justice et de bien-être et de paix. Et c'est là notre rôle de pouvoir communiquer cette justice, cette paix que nous avons gagnée en Jésus, cette assurance que nous avons aussi que un jour les hommes rendront des comptes. Parce qu'aujourd'hui, quand on lit le journal, quand on regarde sur Internet ce qui se passe, beaucoup de gens sont scandalisés. C'est le scandale qui règne, parce qu'on a appris que telle ou telle personne a fait ça, tel ou tel homme politique ou femme politique a fait ça. Et tout le monde est scandalisé parce que, eh bien, c'est toujours passé sous le manteau, ça a été mis sous le tapis, des personnes étaient au courant mais n'ont rien fait, et l'injustice a régné. Et nous, nous avons ce message que, un jour, tout le monde rendra des comptes. Personne ne pourra échapper au jugement du Tout-Puissant. Ceux qui ont fait le mal devront en rendre compte. Et ceux qui ont fait le bien aussi pourront en bénéficier devant Dieu, pour ceux qui lui appartiennent. J'aimerais terminer par un dernier verset que l'on trouve dans le psaume 83, les versets 16 et 17. « Poursuis-les ainsi de ta tempête, et fais-les trembler par ton ouragan. » Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. » Et je ne pouvais pas ne pas citer ce verset en parlant des psaumes imprécatoires. Je trouve magnifique dans ce verset, ces deux versets, pardon, de voir que l'auteur demande à l'Éternel de les poursuivre, de faire du mal, de faire trembler celui qui a fait le mal, celui qu'on pourrait appeler le méchant dans l'Écriture. Malgré tout, à la fin du deuxième verset, qu'est-ce qu'on voit ? « Afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. » Et voilà encore une clé que je me permets de rajouter à notre texte. Lorsque nous souffrons, que nous verbalisons à Dieu toute cette souffrance, tout ce qui est dans notre cœur et qui nous pourrit, n'oublions pas aussi que si le Seigneur parfois fait venir sa colère, son châtiment sur telle ou telle personne, c'est toujours aussi avec l'objectif de se faire connaître à lui. Seigneur, viens faire trembler par ton ouragan afin qu'il cherche ton nom. Vous voyez qu'il n'y a pas juste la portée de punir pour détruire, mais avec ce verset, nous voyons aussi la portée de punir pour faire découvrir. Pour que ceux qui ont fait le mal puissent réaliser leur faute et se tourner vers l'Éternel pour pour chercher le pardon. Nous ne voulons pas, en tant que fils et filles du royaume de Dieu, nous ne voulons pas simplement que le méchant soit détruit. Nous ne voulons pas simplement qu'il doive rendre des comptes pour ses fautes et qu'il finisse tout simplement loin de Dieu, dans l'enfer. Mais nous voulons bien plus qu'il se tourne vers Dieu et qu'il trouve le pardon que nous-mêmes nous avons trouvé. Je vais terminer par la prière. Père éternel, j'aimerais te rendre gloire pour ta parole. Merci Seigneur parce que nous pouvons trouver en elle tout ce dont nous avons besoin. Merci parce que tu as voulu mettre, Seigneur, dans ta parole aussi des textes comme ce psaume 109, ce psaume imprécatoire. Nous lisons, Seigneur, des choses qui nous choquent, des choses qui nous interrogent. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous aides à approcher ces textes difficiles avec tes yeux, avec tes lunettes, pour que nous puissions, Seigneur, bien saisir ce que tu veux nous dire. Pourquoi est-ce que tu as permis que ces textes soient dans ta parole ? Merci parce que, Seigneur, devant toi, nous n'avons pas à nous cacher. Nous sommes tels que nous sommes, des pécheurs rachetés. Et il y a en nous, Seigneur, des choses qui te déplaisent. Tu les vois, Seigneur, tu les connais. Et malgré cela, tu nous as choisis. Malgré cela, tu nous as aimés le premier. Aide-nous, Seigneur, à cultiver une intimité avec toi, où, Seigneur, nous ne te cachons rien, où nous te livrons tout ce qui est dans notre cœur, et où, Seigneur, nous nous attendons à ce que tu agisses pour venir nous guérir, venir nous transformer. Nous avons besoin de ton œuvre, Seigneur, tous les jours de notre vie. Jusqu'à notre mort, nous avons besoin que tu agisses, que tu viennes, Seigneur, nous rendre tous les jours un peu plus semblables à ton Fils Jésus. Merci parce que lui, Jésus-Christ, est parfait. Et parce que lui est parfait, nous n'avons pas à être parfaits. Tu nous considères, Seigneur, comme parfaits parce que Jésus est parfait. Et c'est là pour nous, Seigneur, un sujet d'allégresse, de joie. Nous n'avons pas, Seigneur, à porter un fardeau sur nos épaules de ne pas être à la hauteur de ce que tu es. Et Seigneur, merci parce que tu viens à notre aide, tu nous aides à progresser dans la foi. Viens, Seigneur, nous visiter, renouveler en nous un cœur bien disposé. Un cœur, Seigneur, humble, qui ne se fait pas d'illusions sur lui-même. Un cœur qui aspire à ce que tu viennes transformer notre vie. Amen.